À Washington, 21h à Dakar et à Freetown. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Salle Plus. Dernier jour du sommet États-Unis-Afrique à Washington, Barack Obama a annoncé la création d'un programme pour favoriser les échanges commerciaux avec le continent. Un sommet trop axé sur le business pour certains analystes.
On a l'impression que ça a été fait dans la précipitation et donc ça ressemble à tous les autres sommets qu'on connaît.
Kanyuri Chika, éditeur du magazine Transatlantique, regrette que les aspects culturels aient été complètement oubliés. Nous reviendrons également sur notre interview exclusive avec Macky Sall, le président de la République sénégalaise. Enfin, en Sierra Leone, des centaines de soldats ont été déployés autour des centres de santé traitant les malades Ebola. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Vous l'avez dit, dernier jour aujourd'hui du sommet États-Unis-Afrique à Washington au menu de l'agenda du président américain Barack Obama. Trois rencontres publiques avec les dirigeants africains. M. Obama doit donner une conférence de presse ce soir. 50 chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce sommet. La Maison-Blanche a organisé hier un dîner d'État en l'honneur de ses hôtes, au cours duquel le chef de l'exécutif américain a fait un clin d'œil à son héritage africain, affirmant que, pour sa famille, les liens entre les États-Unis et l'Afrique sont profondément personnels. M. Obama a annoncé 33 milliards de dollars d'investissement privé et public des États-Unis dans divers pays africains. L'épidémie d'Ebola a tué une deuxième personne au Nigeria pendant que le Libéria et la Sierra Leone font appel à leur armée pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Lionel Gaïma.
Le Nigeria a enregistré 7 cas confirmés de la fièvre hémorragique Ebola. Selon le ministre de la Santé, Onyebuchi Chukwu, ils sont tous contaminés par le Libérien décédé à Lagos des suites de cette maladie. Au Libéria et en Sierra Leone, des centaines de soldats sont déployés autour des centres accueillant des malades pour faire respecter les mesures de quarantaine. Deux Américains malades ont été traités avec un anticorps expérimental jamais testé auparavant sur des humains. Ce sérum semble avoir un effet positif. À Genève, un comité d'urgence de l'OMS s'est réuni aujourd'hui pour voir si l'épidémie est susceptible d'entraîner une crise à l'échelle mondiale.
Et 12 personnes ont été condamnées à mort aujourd'hui en Égypte pour le meurtre d'un général de police atteint d'une balle il y a près d'un an alors qu'il coordonnait un raid sur un bastion des frères musulmans. Le Soudan tiendra des élections générales en avril 2015. L'opposition, qui ne veut pas d'un vote imposé, a exprimé ses réserves. On ne sait pas si le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989, va briguer un nouveau mandat.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les armes se sont tues à Gaza pour une deuxième journée consécutive. Pendant la trêve de 72 heures négociée par l'Égypte, les représentants du gouvernement israélien et du Hamas se sont retrouvés au Caire pour envisager un cessez-le-feu durable. Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé les deux parties à faire des concessions. C'est la plus longue pause en un mois de combat ayant fait 1 800 morts chez les Palestiniens, la plupart des civils, et 67 dans le camp israélien, dont 3 civils. En Afghanistan, un policier a tué 7 de ses frères d'armes la nuit dernière dans le centre du pays. L'assaillant s'est enfui après l'incident survenu à Tarinkot, capitale de la province d'Uruzgan. Hier à Kaboul, un homme en uniforme a tué un général américain et blessé au moins 15 autres militaires, dont un général de brigade allemand. Une attaque de drone américain a fait au moins 5 morts dans le nord-ouest du Pakistan. Les victimes sont des militants présumés opérant dans le Waziristan Nord, près de la frontière avec l'Afghanistan. Le mois dernier, au moins 26 islamistes présumés ont été éliminés. Dans des frappes similaires, l'armée pakistanaise mène une offensive dans la région depuis le mois de juin. Les autorités du Bangladesh ont déposé une plainte aujourd'hui contre le capitaine d'un ferry qui a chaviré en début de semaine, alors que les secouristes ont mis fin à la recherche de plus de 125 passagers toujours portés disparus. 3 jours après la catastrophe, environ 100 passagers ont survécu au naufrage. Et puis aujourd'hui, c'est le 69e anniversaire de l'attaque nucléaire d'Hiroshima qui a fait environ 140 000 morts, suivi d'un autre bombardement à Nagasaki faisant 70 000 morts 3 jours après. Lors de la cérémonie de commémoration, le premier ministre japonais Shinzo Abe s'est engagé à plaider pour un monde sans armes nucléaires. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel Plus, Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons donc avec le sommet États-Unis-Afrique qui s'est terminé ce soir à Washington. Hier, Barack Obama a annoncé la création d'un conseil pour le « doing business », autrement dit pour faire du commerce avec le continent. Reportage de l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique sur ce sommet, Nicolas Pinault.
Oui, peu avant son discours à la tribune d'un grand hôtel de Washington, le président américain a annoncé la création d'un conseil pour le « doing business » en Afrique. Cet organe aura pour but de promouvoir la croissance et la création d'emplois aux États-Unis et d'encourager les compagnies américaines à investir en Afrique. Il faut dire qu'avec une croissance prévue de 5,4% cette année, l'Afrique fait mieux que la croissance mondiale. Barack Obama a annoncé hier près de 33 milliards de dollars pour le continent sous forme d'aide publique ou d'investissement privé. M. Obama a néanmoins insisté devant les chefs d'État. La croissance ne fait pas tout.
Le capital, c'est une chose. Les projets et programmes de développement sont une autre. Mais l'état de droit, les réformes de régulation, la bonne gouvernance, ces choses ont même plus d'importance parce que n'importe qui devrait pouvoir commencer un business ou exporter des biens sans avoir à payer un pot de vin ou embaucher le cousin de quelqu'un.
Auparavant, c'est le vice-président américain qui s'était exprimé. Joe Biden a salué l'effet bénéfique de l'AGOA pour le continent. Selon lui, 6400 produits africains entrent aujourd'hui sur le marché américain sans être taxés. Les exportations américaines de biens et services vers l'Afrique ont représenté 50,2 milliards de dollars en 2013, un bond de 40% par rapport à 2009. Joe Biden affirme que les États-Unis veulent être un partenaire à long terme pour les Africains.
We have a chance. You have a chance.
On a une chance, vous avez une chance. Vous avez la chance en Afrique de faire rimer espoir et histoire comme jamais auparavant. Nous voulons être vos partenaires. Nous voulons être dans la compétition pour conquérir vos marchés. Nous voulons être dans la compétition pour vos cœurs et vos intérêts. Mais nous voulons vous voir réussir parce que si vous réussissez, le monde entier réussira.
Le sommet de Washington est clairement placé sous le signe du commerce et des opportunités économiques sur le continent. Il sera néanmoins question de paix et de sécurité tout à l'heure entre le président Obama et ses invités. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la VOA et sur le 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Nous continuons à évoquer ce premier sommet historique Afrique-États-Unis. Et pour ce sommet, l'administration américaine a choisi de rencontrer les chefs d'État africains, mais pas la société civile. Une erreur majeure pour Kanuri Chika, éditeur du magazine Transatlantique. Si les États-Unis veulent renforcer leurs relations avec le continent africain, il ne faut pas oublier leurs liens historiques et culturels. Kanuri Chika.
D'abord, je suis très heureux que ce sommet puisse avoir lieu, puisque je suis parmi les gens qui l'ont proposé il y a une vingtaine d'années, quand on était au premier sommet entre chefs d'État africains et responsables noirs américains à Abidjan en 1991. Mais ça a pris 20 ans avant qu'on puisse y penser, quoi.
Pour vous, quels sont les points faibles de ce sommet?
On a l'impression que ça a été fait dans la précipitation. Premièrement, puisque je pense qu'il y a seulement 6 mois que le président l'a annoncé. Et donc, on a l'impression que ça ressemble à tous les autres sommets qu'on connaît déjà, comme par exemple les sommets Chine-Afrique, France-Afrique ou autres. Or, il faudrait faire cette différence qui existe entre l'Afrique et les États-Unis. C'est une différence historique et culturelle par rapport aux autres puissances dont on vient de parler. Donc, l'Afrique, les États-Unis sont la seule puissance au monde, et surtout occidentale, où la composante africaine est très importante. C'est-à-dire, la culture américaine vient en très grande partie de la culture née à Congo Square, à la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire, le mélange que les esclaves ont fait de la musique, qui a donné naissance à la musique américaine moderne, a changé profondément la culture populaire américaine en la rendant afro-occidentale. C'est ça qui a permis le climat qui a pu déboucher sur l'élection du président Obama. Sans cet apport de Noirs américains, jamais on n'aurait imaginé avoir un président de Noirs aux États-Unis. C'est arrivé puisque les Noirs avaient déjà changé la culture populaire américaine.
Et pour vous, ce volet culturel a complètement été oublié?
Oui, je pense qu'il faut le rattraper, puisque sans ça, ce sommet ne représente pas grand-chose. Sinon, il ressemble à tous les autres, et ça veut dire qu'il n'innove en rien s'il n'est pas capable d'aborder cette question, puisque pour rapprocher l'Afrique des États-Unis, on doit absolument, puisque les Noirs américains veulent connaître beaucoup de l'Afrique. Les Africains aussi veulent connaître des États-Unis. Mais on n'a pas encore développé beaucoup de mécanismes pour ces échanges au niveau de la société civile, puisque c'est là où il faut faire la chose. C'est bien intéressant de réunir quelques entreprises et d'autres, mais ça ne changera pas profondément les relations sans qu'on n'arrive pas à la société civile et au dialogue entre des peuples qui ont des choses en commun, notamment une origine. Et ce qu'on ne dit pas aussi très souvent, c'est que dans les dernières recherches, on se rend compte que même les Noirs américains ont influencé jusqu'à la religion, puisque la religion évangélique qui est très dominante aux États-Unis.
Kanuri Chika, éditeur du magazine Transatlantique. Le président du Sénégal, Macky Sall, était aussi à Washington pour le sommet États-Unis-Afrique, seconde partie de l'interview qu'il a accordée à La Voix de l'Amérique. Face aux accusations de ses détracteurs, qu'il accuse de placer ses proches à des postes de responsabilité, Idrissa Sédoudia lui a demandé quelle était sa réaction.
Je pense que les gens doivent être plus sérieux dans le débat. Ces personnes qui sont visées dans ces élections, heureusement que ce sont des élections, ce ne sont pas des décisions du président de la République par son pouvoir régalien qui est mis, son frère par exemple, à Guédiaoué, qui est l'une des principales villes du Sénégal. Il a pris sa responsabilité en allant militer à Guédiaoué, avant même de me demander mon avis. Il a été sanctionné par le vote des citoyens de Guédiaoué. Et dès qu'il s'est manifesté, le débat a fait rage. Pourquoi il vient? Il n'est pas d'ici, c'est de la dynastie, etc. Mais le peuple de Guédiaoué a choisi. Il en est de même pour celui qui est mon beau-frère, qui est maire de Saint-Louis. Il s'est offert aux citoyens, a proposé, il a été élu. J'aurais voulu que dans l'exécutif, qu'un premier ministre ou que des pouvoirs particuliers soient donnés à mes proches, on ne le citera pas. Et pourtant, j'aurais pu le faire, puisque depuis le président Senghor, d'ailleurs, depuis que le Sénégal existe, tous les chefs d'État ont pu, à un moment ou à un autre, nommer parmi leur entourage. Ça n'a jamais été le problème. D'ailleurs, je ne reproche à aucun des chefs d'État qui a eu à le faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un mot d'ordre politique qui peut mobiliser. Mais les élections viennent de mettre fin à ce débat stérile. Puisque finalement, la souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple de décider. Si le peuple décide d'élire Aliou Sall Guédiaoué, écoutez, qu'on arrête de parler de dynastie Sall. Si le peuple de Saint-Louis élit Mansour Faye comme maire de Saint-Louis, je pense que le débat, il s'éteint de lui-même. Maintenant, il y a des gens qui continuent à vociférer sur cela. Bon, on est en démocratie et la liberté de parole est aussi consacrée. J'accepte bien que les gens continuent à parler comme ils l'entendent.
2 ans et demi après votre accession au pouvoir, avez-vous toujours l'intention de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5?
Vous savez, je suis un homme qui ne m'engage pas à la légère. Lorsque je prends un engagement, j'entends le respecter. Il n'y a absolument rien qui ait changé depuis que j'ai fait cette déclaration. Maintenant, les gens voudraient que tout de suite je fasse le changement. Je ne le ferai pas tout de suite. Parce que ça, c'est je suis responsable de l'agenda. C'est à moi de savoir à quelle période j'entends faire cette réforme. Mais je n'ai fait que 2 ans et demi sur un mandat de 7 ans que je compte réduire. Donc, attends, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est un débat qui n'a pas de sens. Je ne le comprends pas. Qu'ils attendent que le président ait fait 4 ans et demi ou 8 mois peut-être pour dire, ah, il y a risque de non-respect de sa parole. On n'en est pas encore là. Par contre, ceux qui veulent lancer une campagne électorale maintenant sont pressés de voir le président. Eh bien, ils vont déchanter parce que je ne le ferai pas maintenant. Moi, je suis préoccupé par les tâches quotidiennes de construction du pays.
En Sierra Leone, des centaines de soldats ont été déployés autour des centres de santé traitant des malades atteints par le virus Ebola pour tenter d'empêcher la propagation du virus. Les explications de Jacques Aristide.
Les centres de soins pour les malades de l'Ebola sont désormais en quarantaine, a annoncé mardi la présidence de la République, et des centaines de soldats bloquent leur accès. Les autorités sierra-léonaises essayent ainsi d'éviter la propagation du virus Ebola. Certaines familles ont ramené des malades chez eux sans avis médical, ce qui a favorisé de nouvelles contaminations. La grande majorité de ces centres se trouvent dans l'est du pays, aux frontières de la Guinée et du Libéria, où se concentrent la plupart des 646 cas recensés dans le pays, dont 273 ont été mortels. Le président Ernest Bai Koroma a décrété le 1er août l'état d'urgence pour une période de 60 à 90 jours, avec une batterie de mesures strictes, dont la mise en quarantaine des foyers de l'Ebola, l'escorte des travailleurs sanitaires par la police et l'armée, et les perquisitions pour repérer les malades présumés.
Sel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la console, Michael Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Rokia Traoré et son Koronoko. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Ukasa da no kamfa amana nyaka mi anga musa wele.